France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Cela fait 50 ans qu'elle soigne ceux qui ont besoin d'aide médicale dans le monde entier. Médecins sans frontières, l'organisation célèbre son demi-siècle d'existence cette semaine. En quoi l'action humanitaire a-t-elle changé en 50 ans? Où sont les priorités de MSF aujourd'hui? Je vous attends au standard 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter. MSF revendique aujourd'hui 64 000 membres et salariés dans 80 pays. Le budget est de plus d'1,5 milliard d'euros. Bonjour Thierry Alafort du Verger.
Bonjour.
Directeur général de Médecins sans frontières en France. Tiens, puisqu'on fête les 50 ans, un peu d'histoire, dans quelles conditions naît MSF?
MSF, alors, né en exactement en
71.
Mais il y a une histoire avant MSF, qui est l'histoire du Biafra.
Oui.
Ou des collègues de la Croix-Rouge, hein, qui seront les gens qui fonderont après MSF, se rendront sur place au moment de cette guerre au Biafra.
Ouais.
Et donc c'est de là qu'ils reviendront avec l'idée de fonder Médecins sans frontières. Ça prendra un certain nombre d'années finalement, ouais. Et la création en 1971.
Deux événements fondateurs, cette guerre et la famine au Biafra, et je crois des inondations monstres au Pakistan à l'époque.
Tout à fait.
Vous avez vous-même effectué beaucoup de missions. Une mission qui vous a marqué?
Beaucoup de missions m'ont marqué. J'ai commencé MSF il y a 30 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Si je devais en citer une, revenons sur celle du Congo-Brazzaville. C'est l'année où on a eu le prix Nobel de la paix.
Donc en 99.
Et j'étais un des porte-parole, chef de mission, comme on appelle ça chez nous, à Brazzaville. Et j'étais un des porte-parole. Le bureau de Paris m'avait demandé d'être un des porte-parole auprès des journalistes. Et en fait, ce que ça m'a fait d'avoir le prix Nobel, c'était surtout de pouvoir parler de cette crise-là. C'était au moment du conflit du Kosovo.
Ouais.
Et personne ne parlait de ce qui se passait au Congo-Brazzaville. Très, très peu de journalistes s'étaient déplacés. Et on voyait une violence énorme, beaucoup d'enfants mourir de malnutrition, énormément de femmes qui étaient violées. C'est de là où on mettra en place petit à petit une prise en charge des femmes violées, une prise en charge médicale et psychologique des femmes violées, qu'on apprendra petit à petit à faire ce travail. Donc voilà, pour en citer qu'une, mais il y en a de nombreuses.
Et le Nobel a permis la médiatisation, il la permet encore aujourd'hui, ça reste un porte-voix le Nobel, et deux, un bouclier éventuellement quand vous intervenez en terrain dangereux.
Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui le prix Nobel, mais le prix Nobel a vraiment fait, faire un pas médiatique, sûrement à Médecins sans frontières, d'autres sûrement, et la prise en charge d'Ebola ces dernières années. Donc c'est vrai que MSF de ses débuts, c'est quelques journalistes et médecins avec ce goût de l'aventure et les choix qu'ils auront fait, et puis l'organisation dont vous avez parlé, 65 000 personnes aujourd'hui, dans plus de 80 pays, donc... Ça n'a plus grand-chose à voir. Pour autant, je pense qu'il reste vraiment chez nous cet esprit, en tous les cas, d'une forme de liberté d'esprit, de transparence, de volonté aussi de bien faire, d'être professionnel. Donc voilà, je pense qu'on a gardé un certain nombre de choses. Après, on est devenu une organisation beaucoup plus importante. Pour autant... il faut garder une certaine humilité. Notre budget, c'est ni plus ni moins qu'un budget d'un gros hôpital universitaire européen.
Même si, parmi les organisations, vous faites partie de celles qui ont le plus de marge financière. Ça n'est jamais suffisant, évidemment, mais voilà. MSF a cette caractéristique-là d'être un peu plus à l'aise que les autres.
Du côté du volume financier, mais surtout aussi de ce qui a été développé par Médecins sans frontières, qui est ce qu'on appelle les fonds privés. Entre 97 et 99%, ça dépend des années, sont des fonds privés. On a plus de 7 millions de donateurs dans le monde. On a plus de 550 000 donateurs en France. Donc voilà, c'est la force d'MSF aujourd'hui.
Et l'épisode de Covid, on en vient aujourd'hui, l'épisode de Covid a plutôt amené une hausse des dons et des donateurs. Au début, lors du premier confinement, on avait une inquiétude, ça a plutôt boosté les dons.
Alors, en tous les cas, chez nous, oui, c'est vrai que c'est notre cœur de métier. Donc,
apporter de l'aide médicale,
voilà,
évidemment.
C'est notre cœur de métier, la solidarité a été au rendez-vous, et en général, la solidarité... Et encore plus au rendez-vous quand ça touche vraiment tout le monde. Et là, on est sur quelque chose qui touche tout le monde. Les riches, les pauvres, les pays du Nord, les pays du Sud.
Alors justement, pays du Nord, pays du Sud, on sait à quel point aujourd'hui, Thierry Alafort du Verger, il y a un écart entre le vaccin dans les pays les plus riches et le vaccin dans les pays les plus pauvres. C'est là-dessus que se concentre l'action d'MSF en ce qui concerne le Covid, aller vacciner dans le Sud, si j'ose dire.
Ben finalement, non. C'est surtout la prise en charge médicale.
Oui.
On s'est mis à disposition des gouvernements avec les mécanismes qui existaient. Donc, on a fait de la vaccination, pour en citer un, au Liban, par exemple. On est en discussion en Afghanistan aujourd'hui pour de la vaccination. Mais on a aussi essayé de faire de la prise en charge et puis aussi essayé de maintenir les soins qu'on apportait. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses, vous avez dit, il y a vraiment cette différence oui. entre l'accès au vaccin et ce qui est important. Il y a aussi peut-être une forme de diktat donné par les pays du Nord, si je peux le dire comme ça, sur les orientations qui doivent être prises, la vaccination pour tous. Est-ce qu'il faut vraiment la vaccination pour tous et dans tous les pays de la même façon?
Oui.
Ça mériterait de regarder l'épidémiologie de l'épidémie.
Oui. Vous avez un exemple d'un pays où justement cette question pourrait se poser?
Bah, typiquement, il n'y a pas très longtemps, une collègue à moi qui rentrait du Niger et qui avait discuté avec des collègues médecins nigériens qui, eux, questionnaient la priorité vaccinale du Covid quand, aujourd'hui, leur problématique est plutôt le paludisme, ouais. la malnutrition qui est en plus, en ce moment, un vrai grave problème permanent dans le pays comme le Niger, le Mali, le Nigeria aujourd'hui, mais aujourd'hui on voit naître une crise plus importante due à l'insécurité, à l'impossibilité des gens de cultiver, au déplacement de populations ouais. importants, et sûrement dû aussi aux effets économiques de la pandémie de Covid.
Donc l'action anti-Covid d'MSF, c'est beaucoup maintenir les soins sur place et les soins, y compris pour d'autres maladies qui risqueraient de pâtir de l'épidémie. Est-ce que vous êtes dans les négociations, notamment via le mécanisme Covavax, pour amener malgré tout le vaccin dans les pays qui en manquent?
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie, comment dire, réticence, égoïsme des pays les plus riches à partager ce vaccin? On sait que une des clés du problème pour éradiquer, je ne sais pas si c'est envisageable, mais en tout cas donner un coup un peu décisif à la maladie, c'est que le vaccin soit partout.
Alors. Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on participe? Oui, on a participé à de oui. nombreuses réunions. Après, quelle place on a dans cette participation? Elle est très, je disais, on est une organisation oui. privée importante, oui. mais on n'est pas une organisation internationale.
Oui.
Donc, oui, on fait partie de ces discussions. Est-ce qu'il y a une réticence? Alors, oui, on voit bien qu'il y a eu, et depuis le début de la pandémie, les batailles pour les, on n'a qu'à se rappeler de la bataille pour les masques.
Oui.
Vous voyez bien, nous-mêmes, on a vraiment eu en grande difficulté pour approvisionner nos terrains en équipement de protection.
Oui.
On a vu aussi pour les tests et pour la vaccination, c'est pareil. On a une forme de repli sur soi, sûrement. Après, ce que je disais, c'est vraiment de questionner aussi cette volonté. Il y avait un moment donné, on avait l'impression que les pays africains devaient aussi être en lockdown, enfin
en confinement,
alors que la question pouvait vraiment se poser. Oui. On voit bien que l'épidémie est pas la même de partout. On parle d'une pandémie, mais il faudrait peut-être regarder les différentes épidémies qui existent oui. dans le monde et avoir une réponse plus appropriée. C'est sûr qu'il faudrait que toutes les personnes à risque dans le monde soient vaccinées. Et le profil des personnes à risque aujourd'hui, on le connaît, hein, c'est une personne d'un certain âge et c'est toutes les comorbidités. Donc ça, au minimum, et le personnel de santé. Après, le reste, je pense que ça mériterait quand même d'être regardé de plus près.
Et d'avoir une connaissance plus fine du terrain, si
Tout
je vous
fait.
Suis bien. Question de Christine au standard, il n'y a évidemment pas que le Covid dans l'action d'MSF. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Montpellier, vous vouliez parler de l'Afghanistan.
Oui, exactement. D'abord, bravo pour la qualité de vos émissions et pour
Merci.
Les actions de MSF. Et je m'interrogeais pour savoir si MSF a actuellement accès à l'Afghanistan, s'ils ont une possibilité d'action ou pas. Et dans l'affirmative, comment peut-on aider, bien sûr, par le don général, mais est-ce qu'il y a une modalité particulière de d'aide?
Thierry à la Fort du Verger.
D'abord, merci beaucoup. Alors oui, on a accès. Comment dire, on a accès. On n'est pas parti d'Afghanistan malgré les événements de ces derniers mois. Et voire au contraire.
Ça veut dire qu'il y a combien de représentants d'MSF en Afghanistan aujourd'hui, locaux et éventuellement étrangers?
Alors je vais pas te donner un chiffre ouais. exact parce que je vais pas le savoir, mais ouais. plusieurs milliers.
D'accord.
Plusieurs milliers de collègues afghans. Et internationaux, alors pour les internationaux c'est quelques dizaines,
oui.
Sont présents sur différentes provinces de l'Afghanistan et Étonnamment, on va dire que pour le moment, on est plutôt en augmentation de notre action pour différentes raisons. C'est que le gouvernement taliban qui arrive n'a pas administré un pays. Il est difficile d'administrer le côté sanitaire aussi. Il y a une limitation de l'aide internationale aujourd'hui et il y a une augmentation des problématiques de santé. Donc on a plutôt une phase où on peut négocier correctement notre accès. Et puis on peut dire qu'il y a plus ou moins, en tous les cas, une paix qui est installée à la limite de différents endroits en Afghanistan. Donc voilà. Donc on n'a pas vraiment de problème pour le moment pour déployer notre aide dans les différentes régions d'Afghanistan.
L'action n'est pas entravée. Quel regard, via votre action, vous avez sur la situation des femmes en Afghanistan depuis l'arrivée des talibans? Est-ce que les femmes en demande de soins sont de plus en plus nombreuses? Alors, ou au contraire, est-ce que vous avez vu disparaître, qu'elles ne peuvent plus accéder à vos centres?
Alors c'est pas le cas aujourd'hui, et c'est vrai qu'on y est très très attentif. On peut pas, nous, aujourd'hui le voir à travers les actions de soins que l'on mène.
Question via l'appli, question de Philippe qui est donateur à Metz. Pourquoi vous ne fusionnez pas avec Médecins du Monde alors que vous êtes un doublon, dit-il. J'imagine que ce genre de question revient régulièrement, mais manifestement ça intéresse les donneurs. Les donateurs.
Alors, c'est difficile. Je sais que c'est toujours très difficile. Et je vois, moi, dans ma famille, dans mes proches, la question me revient souvent. Mais MDM, MSF, quelle différence? Mais j'écoutais ce matin sur France Inter la rédactrice en chef de Marianne qui parlait des 50 ans des MSF. Et voilà, par exemple, elle parlait du droit d'ingérence. Droit d'ingérence qui a été porté par Bernard Kouchner, un des créateurs de Médecins Sans Frontières, mais que Médecins Sans Frontières n'a jamais défendu. Bien au contraire, a plutôt très souvent dénoncé par rapport à ce qu'elle disait aussi à la réalité de la politique. Et on ne pensait pas que la politique avait disparu et qu'on était bien obligé de négocier notre espace, que ça soit avec un État ou un groupe qui tient une région de fait, par les armes ou autre. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup de différends et aujourd'hui, comment décrire les différents points de vue de MDM et d'MSF?
Au fond, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ça doublonne ou ça se cumule? C'est-à-dire, voilà, le fait qu'il y ait deux associations de cette nature-là, ça permet un champ d'action plus large ou il y a des doublons?
Alors, typiquement, pour Médecins du Monde, ils ont un champ d'action en France qui est beaucoup plus important que le nôtre. À l'inverse, je pense qu'en international, il n'y a pas de commune mesure entre Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde aujourd'hui par le nombre de pays, par le nombre d'actions, par le nombre de personnes soignées. Donc il y a une vraie différence et là c'est plutôt un plus. Voilà. Et après, on a par moment des points de direction commune et des points de politique divergentes.
En France, est-ce que vous intervenez auprès des migrants en tant que Médecins Sans Frontières?
Oui, alors c'est vrai qu'on on intervient peu et on a beaucoup... pendant des années, on a eu une période assez importante à l'époque de la CMU. On avait vraiment porté
couverture médicale universelle.
Et on avait beaucoup porté ce combat. Puis petit à petit, on s'était retiré des actions en France. Et puis quand ça a pris une ampleur importante et entre autres avec le camp de Grande-Synthe qu'on avait beaucoup appuyé il y a quelques années. Donc là aujourd'hui, on a des actions à Paris, entre autres pour ce qu'on appelle les mineurs isolés. Avec un centre de jour à Pantin et puis des centres d'accueil, il y en a un qui est à Neuilly-Plaisance, entre autres.
C'est possible, sans difficulté, sans barrière, d'intervenir pour aider les migrants aujourd'hui en France ou c'est compliqué?
C'est clair qu'on voit bien que les politiques migratoires européennes sont très contraignantes.
Et ça a tendance à s'accentuer?
Alors c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Aujourd'hui, on a toujours, nous, un bateau en Méditerranée. On a peut-être un peu moins de problèmes pour trouver des ports d'accueil. On est peut-être moins médiatiquement mis en avant, entre autres, par des accusations, voire des procès qu'on nous a fait un peu d'être proche des passeurs et les accusations qui ont été portées, entre autres, par le gouvernement italien, mais pas que. Pour autant, on voit bien, nous, on a toujours des actions en Libye, où c'est toujours la même catastrophe, des camps, des, des camps où les gens sont enfermés, où il y a énormément de violence. Et on voit bien que l'Union européenne continue à financer les gardes-côtes libyens qui ramènent des gens en Libye. Donc non, il y a une politique migratoire. Et là, je pense que ça va être très difficile dans les mois qui viennent, entre autres en période présidentielle, pour faire évoluer cette politique. Et on verra un peu plus tard si on peut y arriver. Mais honnêtement, on sent bien que là, on reparlait de la réelle politique et que c'est des
politiques
très contraignantes.
Thierry Laforte-Duverger, merci beaucoup, directeur général de Médecins Sans Frontières en France, d'être venu dans les studios de France Inter MSF qui fête ses 50 ans cette semaine. Ce sera jeudi, le jour exact.
Oh, alors là, aujourd'hui, c'est le jour où les gens s'étaient réunis. Oui. Après-demain, c'est le jour où ils seraient allés en préfecture. Et deux mois plus tard, c'est là où ça sera au journal officiel.
Cette semaine. Donc, merci en tout cas d'être venu.